explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
S'il est une leçon du voyage, c'est au moins celle-là, que le plus court chemin de soi à soi, et d'ailleurs le seul, est la rencontre avec l'autre. Ainsi parlait Michel Lebris du voyage. Toute sa vie, cet écrivain, romancier, philosophe et éditeur n'a eu de cesse de parcourir le monde et de courir de livre en livre au bonheur des rencontres, avide de découvertes, toujours pressé de les faire partager, comme s'il s'agissait de cartes au trésor à découvrir de toute urgence. Il a lancé en France le mouvement des écrivains voyageurs et mis dans la lumière nombre d'entre eux, comme Nicolas Bouvier, Ella Maillard ou encore Anita Conti. Son nom restera à jamais associé au festival Étonnant Voyageur qu'il a créé en 1990 à Saint-Malo. Dès le début, le public a répondu présent. En 30 ans d'existence, la manifestation littéraire est devenue l'une des plus importantes de France. 3000 écrivains du monde entier y ont participé. Ce week-end, l'incontournable rendez-vous littéraire de la cité corsaire proposera pour la première fois des rencontres à suivre uniquement en ligne. Mais surtout, pour la première fois, le festival se tiendra sans son fondateur. Michel Lebris a définitivement pris le large le 30 janvier dernier. Cet après-midi, deux de ses compagnons de route sont avec nous pour lui rendre hommage, l'académicien Dany Laferrière et le poète Yvon Lemaine. Il fallait bien deux écrivains de cette trempe pour partir sur les pas de l'étonnant voyageur qu'était Michel Lebris. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Johanna Gabric. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Quand j'étais gamin, ma mère devenait folle parce que dès qu'il y avait les tempêtes, je partais à la pointe du fort. Là, je me blottissais dans les rochers et je sentais quand ces masses d'eau qui s'écrasaient contre les blocs de granit et puis qui explosaient comme ça. Je sentais le rocher qui tremblait. Je rentrais ici, les yeux comme écarquillés à demi-fou. C'est quelque chose que j'ai très fort en moi. Ça, c'est par tempête et grande marée, la mer rentrait dans le jardin là, et j'entendais ces vagues qui brassaient, qui rebrassaient les galets à l'infini, cette espèce d'immense respiration comme ça. Quand on me parle de l'être, je pense à ça. Je crois que c'est ça. Et c'est l'éveil de cette puissance en moi que je cherche, que je mime. J'ai l'impression par l'écriture. Et souvent, je m'aperçois quand je me relis que les phrases épousent ce rythme-là. Quand la musique ne vient pas, c'est parce que le sens ne va pas. Et souvent, je me suis laissé guider par le rythme, les sons. Et puis, je suis arrivé à une phrase que je n'imaginais pas du tout, qui disait le contraire de ce que je voulais écrire. Et avec le recul, je m'apercevais que c'était le rythme qui avait raison.
La voix de Michel Lebris, grand amoureux de la mer. Avec nous en studio, Dany Laferrière, écrivain qu'on ne présente plus, membre de l'Académie française, ami de Michel Lebris. Vous avez participé à de nombreuses éditions du festival Étonnant Voyageur, et pas seulement à Saint-Malo, à Haïti aussi, car nous le verrons, ce festival a tout naturellement voyagé. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Et avec nous, depuis un studio de France Bleu Armorique, à Rennes, Yvon Lemaine, écrivain, poète. Vous étiez ami avec Michel Lebris depuis plus de 40 ans. Vous participez à l'organisation du festival Étonnant Voyageur presque depuis le début. Bonjour Yvon Lemaine.
Bonjour. Bonjour.
Yvon Lemaine, nous avons commencé avec ces mots de Michel Lebris au bord de l'océan. Quelle place occupait la mer dans l'imaginaire et le cœur de Michel Lebris?
La mer, c'est sa mère aussi d'ailleurs. Et c'est Michel est né dans une petite maison où je vais souvent me promener. Hein, je passe devant sa maison, qui est tout à fait au bord de l'océan, au bord des rocs, au bord du vent, au bord des départs, au bord des tempêtes, au bord de la lumière. Et quand je l'entendais tout à l'heure, ce qui me frappe, et Michel, c'est la douceur de sa voix et la puissance de sa vision. Et la douceur, c'est sa maman. Et la puissance de sa vision, c'est tout ce qu'il a fait en nous accueillant. Un des poètes que Michel aimait, c'est Guy Vic. C'était un poète, avec Hugo, ces deux poètes fondateurs pour lui. Et Guy Vic a écrit un poème qui commence comme ça. « Ils ne sauront pas les rocs qu'on parle d'eux et toujours ils n'auront pour tenir que grandeur. » Michel, c'est ça. Voilà.
Michel Lebris était un amoureux de la mer, c'était aussi un amoureux des livres, évidemment. Dany Laferrière, il lisait et écrivait avec un appétit d'ogre.
Ah ben tout à fait, et qui m'impressionnait, parce que ce festival réunit toujours beaucoup d'écrivains venant de partout, et on avait l'impression que c'était impossible de presque tout lire, et pourtant il lisait et relisait, il me disait « je viens de faire terminer, mais j'ai repris ». Tel livre, c'est impressionnant.
Vous avez écrit, Dany Laferrière, le lendemain de la mort de Michel Lebris, un très beau texte lui rendant hommage, dans lequel vous le comparez à un vieux train bourré de livres qui ramasse le plus de gens possible sur son passage. Cette image rassemble à la fois donc beaucoup d'éléments de ce qu'était Michel Lebris, le déplacement, ses livres innombrables, puis les rencontres, surtout les rencontres.
Et le train d'abord, parce qu'il y a un vrai train qui va de Paris à Saint-Malo et qui ramasse les écrivains. Et c'est pour cela que, pour moi, une image importante, elle doit être toujours concrète d'une certaine manière. Et c'est vrai, il avait cette démarche un peu chaloupée et qui semblait aller cas à cas, mais en fait, il allait rapidement. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il a disparu un peu, qu'il est parti, et on a l'impression qu'on pourra jamais le rattraper, quel que soit l'endroit où il voudrait aller, il aura toujours une longueur d'avance dans ce sens-là, oui.
Ouais. Avant d'être un espace ouvert, le monde est d'abord une bibliothèque, c'est ce qu'a écrit Michel Lebris. Ce sont les livres qui ont donné à Michel Lebris l'envie de voyager, Yvon Lemaine.
Oui. Absolument, parce que comme tout, Michel était né dans une famille très pauvre, donc il n'y avait pas de livres, et quand il n'y a pas de livres, il y a des milliers de livres dans nos têtes. Et c'est une dame, une amie de sa maman, je crois, qui lui avait dit « va dans le grenier et prends tout ce que tu veux ». Et il y avait des kilomètres de livres, des revues, « La veillée des chaumières »,« La condition humaine de Malraux ». Et son instituteur, qui l'a sauvé, lui disait « lis tout ce que tu veux et même si tu comprends pas, tu comprendras toujours quelque chose ». Et les livres l'ont sauvé, ce qui fait que l'étape d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 50 000 bouquins à la maison et une bibliothèque non rangée, quoi.
Ouais.
Quand il aimait un livre, il achetait toutes les éditions qu'il trouvait. Il a acheté, je ne sais pas combien de fois, le premier livre qu'il a aimé, La guerre du feu, ouais, de Romy Yannet.
Alors, vous évoquiez cet instinct, et justement, quand il achète ce premier livre, La guerre du feu, le livre le passionne tellement qu'il se met à écrire au sujet de ce livre. Son instituteur, absolument génial apparemment, qui a été décisif dans la vie de Michel Lebris, le voit écrire. Et lui dit, mais tu sais, moi je donne des sujets de rédaction de temps en temps, mais si tu aimes écrire, bien sûr, vas-y, écris. Et il l'encourage, son instituteur l'encourage en lui ouvrant sa bibliothèque, et il l'encourage aussi en lui donnant, entre guillemets, l'autorisation d'écrire, de voyager par ses propres mots, Yvon Lemaine.
Absolument, oui, tout à fait, il s'appelait Fred, son instituteur. Et il lui a dédié, d'ailleurs, le livre que nous avons écrit ensemble, Fragments du Royaume, il a marqué à Fred, l'ami retrouvé. Et moi, j'ai connu une dame dont j'étais l'ami, qui était en classe avec Michel quand il était petit. Et il paraît que quand l'instituteur lisait les rédactions de Michel, tout le monde se taisait.
Ouais.
Et je l'ai dit à Michel un jour, il me dit « c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'au contraire, tout le monde écrive ». Ah. Les gens étaient complètement scotchés en disant « bon, voilà ». Il était là avec son monde à lui et effectivement, son instinct l'a complètement compris, si je puis dire, complètement, avec sa maman, qui était très important, sa mère, qui était toujours là pour l'amener deux pas plus loin, quoi.
Il disait de sa mère, alors qu'il vivait dans une maison très pauvre, sans électricité, vraiment dans le dénuement le plus total, il disait, sa mère, avec son sourire, son tempérament, a fait de ce lieu assez misérable un paradis.
Oui, absolument, par les fleurs, par la cuisine, par, moi je l'ai connue, sa maman, Il s'est occupé d'elle d'ailleurs parce qu'elle était malade à la fin de sa vie. Elle avait une polyarthrite d'avoir trop travaillé comme femme de ménage. Et elle était là, et lui était là près d'elle, quoi, comme elle était là au début. Voilà.
Pour comprendre Michel Lebris, il faut avoir l'océan en tête, il faut avoir les livres, il faut avoir sa mère. Je vous propose d'écouter Michel Lebris racontant sa découverte de la littérature quand il était enfant.
Tout d'un coup, lisant La Légende des siècles de Victor Hugo, etc., je
me suis reconnu dans ce qu'il disait. Alors, je voyais la mer qui arrivait comme ça, et puis j'étais là, il dit, il y a des racines, un chêne, etc. Et la mer venait, et paf, passait au-dessus de moi, comme ça, quand personne ne me regardait, parce que je serais caché sous terre, si je crois, si quelqu'un m'avait vu à ces moments-là, mais pour moi, c'était ça, quoi. Et puis j'ai lu Jack London, The Call of the Wild, l'appel dit de la forêt, ce qui est une absurdité, c'est l'appel du sauvage, en fait. De l'appel de la force, de cette force au cœur du monde. J'ai lu Moby Dick de Melville, j'ai lu Conrad, le nègre du Narcisse, et j'ai su avec une force incroyable qui m'a bouleversé littéralement à cette époque-là, que tout cela parlait exactement de ce que je vivais, de la mer là, au dehors, que c'était de ça qu'il parlait, de ce mystère du monde, de cette énigme d'une force indifféremment créatrice, destructrice. Et il faut que vous la découvriez en vous si vous voulez habiter un lieu pareil. Après, la question, quand vous avancez un petit peu, c'est de savoir comment vous faites pour la rendre créatrice et non pas destructrice.
La mer, on y revient toujours avec Michel Lebris. Dany Laferrière, il évoquait souvent cette puissance créatrice et destructrice de la mer et cette idée que nous avions en nous une force semblable qu'il fallait s'employer à canaliser pour qu'elle devienne créatrice.
C'est l'orgue en lui. Je pense que, je ne sais pas si nous avons tous cette force-là ou si elle se manifeste de cette manière. Il y a des forces beaucoup plus délicates que la force énorme, immense de Hugo, qui l'a rappelé, de Conrad, de Melville ou de Lebris lui-même. Il aimait ça. C'est un lecteur et un inventeur de formes grandioses comme King Kong pour la beauté du monde. Et bon, il avait ce sentiment-là, on voyait que tout cela est une littérature de ventre. Tout cela se bâtissait dans son ventre. C'est de là que le train allait partir. C'est-à-dire, il ne verra jamais la lecture comme quelqu'un individuel qui est assis dans un petit coin. Et ce quelqu'un-là, il emmagasine des mondes qu'il allait distribuer, un peu comme l'orgue dans la forêt, comme il dit, l'appel du sauvage.
Michel Lebris va défendre toute sa vie cette littérature ouverte sur le monde et lancer en France le mouvement des écrivains voyageurs. Cet après-midi, le temps d'un bivouac, Yvon Lemaine et Dany Laferrière nous emmènent sur les pas de Michel Lebris, cet homme qui a tant aimé parcourir le monde et les livres pour peu qu'il y ait des rencontres tout au long du chemin. C'était Pirate de Ricky Lee Jones sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. L'essentiel est de bouger, d'éprouver d'un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation et de sentir sous ses pas le granit terrestre et, par endroits, le coupant du silex.
L'auteur de ces mots est l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, grand voyageur, auteur de L'île au trésor ou encore Voyage avec un âne dans les Cévennes. Michel Lebris, sur les pas duquel nous cheminons aujourd'hui, voit une véritable passion à Stevenson. Il lui a consacré une biographie monumentale. Dany Laferrière, Michel Lebris était intarissable sur cet écrivain.
Oui, je pense que... Bon, c'est un écrivain que... De l'enfance pour beaucoup de gens, de la jeunesse, mais pour Michel, c'est, et pour Borges aussi. Et c'est un écrivain de toute la vie. Et il voyait chez cet écrivain à la fois le sens et le goût de l'aventure, du voyage, et en même temps un chemin presque mystique qui dévoile l'être humain qui parcourt ce chemin-là. Il était vraiment impressionné par tout ce monde de pirates et tout ce monde, j'allais dire, de boucaniers, de flibustiers, ouais. Enfin, tout cet univers qui avait goût de l'aventure, le goût du salé, naturellement, c'est-à-dire de la mer, mais aussi le goût de la forêt, comme il l'a dit à propos de London tout à l'heure.
Quand on écoute Michel Lebris évoquer Stevenson et son œuvre, on comprend pourquoi il était à ce point attaché à cet auteur.
C'est l'écrivain de la rupture, c'est le premier grand écrivain qui va en finir avec l'époque victorienne et annoncer la modernité en littérature, et ça sera pas simple. Il avait quelque chose à dire que jamais personne avant lui n'avait dit. Et ce qu'il avait à dire, c'était de fuir cet univers si assuré de lui-même, puritain, assuré de ses valeurs, qu'il n'imaginait même pas qu'il puisse y en avoir d'autres, incapable donc de considérer les cultures autres que la sienne. On n'imaginait pas qu'il y ait d'autres techniques narratives que les techniques mises en œuvre par les grands romanciers victoriens. Et sortir de cela... Ça va être aussi sortir de ce moule. Il détestait le monde victorien, il détestait Édimbourg, il détestait la bourgeoisie, hypocrite, barricadée derrière ses valeurs. Ce qu'il a hissé par-dessus tout, c'est les murailles. Il avait l'impression que vraiment ce qui résumait le monde victorien, c'était les murailles. Les portes des coffres, les secrets des notaires qui gardaient soigneusement les secrets de famille. Il a une phrase que je trouve magnifique, il dit « le dehors guérit », c'est-à-dire « de l'air ».
Yvan Lemaine, on entendait donc à l'instant Michel Lebris évoquer Stevenson, le dehors guéri. C'est pour ces raisons que Michel Lebris était à ce point attaché à l'œuvre de Robert Louis Stevenson.
Je crois, oui. Mais le dehors qui commence dans le dedans, parce que quand on parlait de la maison de Michel avec son éclairage par la lampe à pétrole, qui crée du clair-obscur, donc qui crée du mystère, de l'ombre et de la lumière en même temps. Et c'est de ces deux forces conjuguées que l'on vit. Et Stevenson, c'est un écrivain de l'enfance, mais de notre enfance éternelle. C'est-à-dire, Michel dit souvent, les premiers livres qu'on lit enfant, c'est des livres inoubliables. Quoi. Il faudrait lire un livre à chaque fois comme un enfant. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et il dit, dans L'amour des livres, par exemple, il dit, il ne faut jamais déranger un enfant qui joue. Il est peut-être en train d'écrire L'île au trésor.
Ouais. Et sa passion pour Stevenson l'a conduit à dénicher des trésors, des pépites. Il est allé jusqu'aux États-Unis, en Californie. Il a découvert un livre inédit de Stevenson, oui. Inachevé, raconté Yvan Lemaine.
Il l'a achevé lui. Enfin, oui. Il a achevé, je veux dire, il l'a poursuivi.
Oui.
Il n'a pas achevé.
Il a proposé une suite.
Oui, c'est La Malle, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et il a proposé une suite, c'est incroyable quand même. Moi, je l'ai lu et... comment la greffe se prend très très bien, quoi. Ouais. Sur Stevenson, il connaissait tout. Ouais. Le mot « tout » chez Michel est important. Hein. Il voulait tout, oui. quand il s'occupait de quelque chose. Mais en sachant que le tout a ses limites, mais le tout. Ouais. Sa bibliothèque autour de Stevenson, c'était une pièce entière à la maison, quoi.
Ouais. Chez lui. Alors, il voulait tout savoir et avec beaucoup d'éclectisme. Hein, quand on voit à quoi il s'intéressait, Dany Laferrière, Michel Lebris, toujours cet appétit d'ogre, tous les sujets pouvaient le passionner.
Tous les sujets et tout sur tous les sujets, c'est quelque chose...
C'est encyclopédique.
C'est encyclopédique en même temps, dans ce monde où les gens aiment bien faire le tourisme. Et voilà quelqu'un qui s'implante quelque part. Et cette aventure, c'est vrai, il faut pas la voir uniquement comme un voyage où l'on marche, où l'on va d'un endroit à un autre. Yvon Le Maine a raison. Et c'est un voyage qui commence aussi devant la page écrite. Il commence à lire et il suit l'auteur comme un petit pousset. Il le trace, comme on dit. Il va sur toutes les routes où il a été et il veut toucher l'être humain. Il veut toucher celui qu'il a impressionné, qu'il a émerveillé. Il veut être l'autre. Pas vanité. Non. Il veut juste devenir l'autre. Il veut savoir ce que Stevenson a ressenti, comment, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a voulu renverser ce monde victorien très corseté, pourquoi il a voulu donner un coup de pied au secret des notaires, et pourquoi il s'est senti coincé, et pourquoi ce monde émerveillé de l'enfance que tout le monde, que les notaires ont eu, pourquoi ces gens-là ont pu transformer cela et comme une prison. Il ne comprenait pas, il veut suivre. Pourquoi on a eu Stevenson?
Ouais. Quel voyageur était Michel Lebris, Yvon Le Maine?
Un voyageur curieux, ce que dit Dany est tout à fait juste. Il suivait comme le petit pousset, quoi, pour, au fin fond, au bout de la forêt. C'était le découvrir le visage de l'autre. Le visage, il en parle souvent d'ailleurs, hein, en citant Lévinas, c'est le mystère de l'autre à travers ses yeux, quoi. C'est-à-dire le mystère du monde et de l'autre. Il avait son génie, si je puis dire, c'était, il l'a prouvé, hein, en accueillant tant d'autres, c'était l'autre, quoi. Alors, il voyageait, c'était pas le voyage de Nicolas Bouvier où il l'a mené jusqu'à Ceylan, où il s'est dépouillé jusqu'à presque la mort, c'est pas ça. C'est, il emportait avec lui, comme disait Dany tout à l'heure, aussi un train, une caravane d'amis, de voyageurs, de livres, etc., pour comprendre l'autre, voilà, et revenir à la maison. Peut-être parce qu'il avait une force intérieure très très puissante, quoi. La rencontre qui lui permettait d'aller vers l'autre.
Et l'autre n'était pas forcément dans les livres, n'était pas forcément seulement des écrivains, c'était des gens aussi. Il était sensible à la misère humaine. Et à chaque fois, il voulait écrire des livres, des pamphlets pour dénoncer cela, pour dénoncer cette rupture avec le réel, avec le besoin de l'autre que notre société a créé. Et il était très sensible à cette beauté du monde perdu, sans raison.
Des rencontres et des découvertes, Michel Lebris va en provoquer d'innombrables avec le festival Étonnant Voyageurs qu'il a créé en 1990 à Saint-Malo. Nous allons revenir sur cette formidable aventure à laquelle Yvon Le Maine et Dany Laferrière, vous avez tous les deux participé. Le temps d'un bivouac rend hommage à l'étonnant Michel Lebris cet après-midi sur France Inter.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. Il va au lycée, mais il déteste ça.
Liminiana, c'est Laurent Garnier dans Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Bonsoir, édition spéciale du journal de FR3 Bretagne et Pays de Loire en direct de Saint-Malo, où depuis hier se tient le premier festival international du livre d'aventure et de voyage. Véritable raz-de-marée dans une cité corsaire déjà bien remplie par le pont de l'Ascension. Premier festival du genre, Étonnant Voyageur 90 est le rendez-vous de plus d'une centaine d'auteurs, dessinateurs et scénaristes, dont les héros vont de Spirou à Corto Maltese, dont les aventures nous ont fait passer à tous des heures agréables devant un livre, une BD ou dans une salle de cinéma.
Moi, à Saint-Malo, je me trouve bien. C'est comme si moi je suis une famille de pirates, de corsaires, si vous voulez. Mais comme vénitien, moi je me trouve très bien ici.
La voix d'Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese, manifestement très à l'aise dans cette première édition du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo en 1990. 30 ans plus tard, le festival ouvre ses portes aujourd'hui sans son créateur Michel Lebris, qui nous a quittés en janvier dernier et auquel nous rendons hommage avec ses amis, les écrivains Yvon Lemaine et Dany Laferrière. Avant que nous évoquions avec vous cette aventure du festival Étonnant Voyageur, écoutons Michel Lebris raconter l'histoire de ce festival qui lui tenait tant à cœur.
Le sous-titre du festival, c'est « Quand les écrivains redécouvrent le monde ». C'était ce rapport au monde qui me paraissait important. Tout simplement parce que je ne supportais plus, c'est la prétention de cette littérature, si vous voulez la seule, qui se rêvait n'ayant d'autres objets qu'elle-même. Alors d'un côté ça, de l'autre, la culture de son moi, mais d'un moi autiste, fermé sur lui-même, ignorant des autres, etc., ça me paraissait insensé à une époque où on sentait bien que le monde basculait, que les repères anciens s'effaçaient, que naissait quelque chose devant nous qui était à la fois fascinant et inquiétant, je veux bien, mais dont au moins j'étais sûr que ce sont toujours, dans ces cas-là, les artistes, les poètes, les musiciens, les écrivains qui en inventent la parole vive, qui nous le donnent à voir, qui nous le donnent à sentir. Et il y avait un pays au monde qui semblait ne pas s'en préoccuper, c'était la France. Enfin, la France. Les quelques chapelles qui se font passer pour la littérature française sur la place de Paris.
Parce c'était que plus Paris que la France.
Quand vous rassemblez ce que on appelait des marginaux à ce moment-là, des Jacques Lacarrière, des Nicolas Bouvier dont j'ai été l'éditeur, qui était totalement inconnu. J'ai rassemblé tous ces écrivains supposés marginaux ensemble à Saint-Malo. Ça a été un moment merveilleux parce que je savais bien que le milieu m'attendait au tournant pour me fusiller net, et c'est le public qui m'a... Ce sont les auteurs d'abord, parce que tous répondaient oui. Alvaro Mutis, Coloane, James Crumley, Le Clésio, ils ont tous été là très très vite. Et puis le public qui a répondu dès la première édition. Je pense qu'il n'aurait pas été là, le public, j'étais mort.
Michel Lebris en 2008 sur France Culture. Yvon Lemaine, c'était la fierté de Michel Lebris, hein, avoir su tenir tête et imposer un festival contre certaines élites et puis une littérature qu'il jugeait étriquée et nombriliste.
C'est surtout qu'il n'y avait qu'une seule voix, quoi. C'était pas un méchant Michel, je veux dire, il veut bien que cette littérature s'exprime, mais on n'écoutait plus les autres. C'est surtout ça qu'il a voulu faire, et à partir de l'Ouest, quoi, hein, de l'Ouest de Paris, c'est-à-dire la Bretagne, avec une équipe qui est d'ailleurs, enfin à part ceux qui sont malheureusement qui ont disparu, qui sont toujours là.
Il y avait quand même cette.
Et une dernière chose, excusez-moi, une dernière chose, c'est que quand on entend la voix de Hugo Pratt, il y avait, et puis ce que j'ai aimé aussi tout de suite, c'est qu'il ouvrait tous les genres, comme on dit, quoi, c'est-à-dire la BD, le cinéma, la poésie, elle est venue un peu plus tard, mais très vite elle est arrivée, le roman policier, enfin, etc. Il n'y avait pas de sous-genre, il y avait des artistes, et puis voilà, quoi. Et le dernier livre que j'ai emprunté à Michel, 15 jours avant qu'il ne s'en aille, c'est Black Mortimer. Et il m'a dit, tu me les rendras.
Ouais. Il me les rendra. Oui. Dany Laferrière, c'était un combattant quand même, parce que imposer l'idée que finalement il n'y avait pas de frontière entre les genres, qu'il n'y avait pas de sous-culture et qu'on pouvait inviter des écrivains, des auteurs, même des musiciens, tous très divers, pour les faire se rassembler dans cette grande fête qui sera toujours ce festival Étonnant Voyageur.
Oui, c'était un combat, mais dans sa réalité, dans sa vision du monde, c'était tout naturel. Et il voyait les choses comme ça, c'est un homme de brassage. Il s'attendait, c'est un homme de bivouac, c'est-à-dire il faut faire jaillir l'étincelle en frottant les gens ensemble, qui va faire allumer ce grand feu et en Bretagne et dans toute la France et plus tard aussi et dans d'autres pays, Bamako, Haïti, et aussi faire insérer ce festival de Bretagne avec tous les grands festivals et de littérature dans le monde. Donc il voyait ça comme un enfant émerveillé qui ne se trouve pas dans un seul tunnel, qui ne se retrouve pas dans un monde étriqué, et tout est bon dans le cochon.
Ouais, c'est ça. Et il y avait ce terme de littérature monde qu'il propose au début des années 1990. Qu'est-ce qu'il mettait exactement, Yvon Lemaine, derrière ce terme de littérature monde?
Ben, le monde par la littérature, plutôt, je dirais. Les mondes, quoi. Et il vivait à la fois, c'est ça qui est étonnant, parce que si vous voyez où il habite, c'était au bout du monde, hein, si on peut dire, hein, au bout du monde, au bout du monde et au commencement du monde, puisque c'est l'océan. Ouais. Mais c'est une petite maison avec une fenêtre qui donnait sur la baie de Morlaix, qui était pour lui la plus belle baie du monde, plus que la baie d'Along. Ouais. Et en même temps, avec le monde dans le dos, qu'il transportait, quoi, comme ce que je disais tout à l'heure, ce que dit Dany aussi, en train ou en caravane à dos de chameau. Et il l'a pensé avec d'autres personnes, comme Jean Rouault aussi, comme il y a eu tout un... Le Clésio, enfin Dany, enfin plein de gens ont signé ce manifeste Littérature Monde à Nantes d'Olivier, etc. Mais c'était assez évident pour lui. Mais moi, je comprends ça très bien depuis que je suis petit, parce que moi, j'étais abonné quand j'étais enfant, grâce à mes parents, je sais pas comment ils avaient fait pour trouver les sous, à tout l'univers. Eh bien, tout l'univers, ça nous sauvait de notre clair-obscur, de notre pauvreté, quoi. Ouais. C'est-à-dire à la fois la fidélité à l'enfance, parce que c'est sacré, et en même temps le monde à transporter. Ça me paraît tout à fait équilibré, moi, je trouve.
Alors vous citiez, Yvon Lemaine, vous citiez Jean-Marie Gustave Le Clésio. Je vous propose de l'écouter, évoquant le plaisir des rencontres faites au détour de ce festival Étonnant Voyageur.
Ce qui est magnifique dans l'idée de Michel Lebris, c'est qu'au fond, il dessine une oasis où un écrivain, qu'il soit voyageur ou non, peut venir se ressourcer, prendre contact avec les autres. Et on échange des idées, des images, des souvenirs. On repart avec ensuite une petite richesse. La dernière fois que j'étais à Saint-Malo, Michel Lebris avait invité une poétesse canadienne de l'ethnie Innu, qui est venue et qui a lu un texte magique, merveilleux, magnifique, dans lequel elle disait simplement que il fallait faire attention à ce que les hommes faisaient, que il fallait retrouver des valeurs plus anciennes, il fallait écouter la parole de sa grand-mère, elle. J'ai trouvé ce texte si beau, et je crois que s'il n'y avait pas eu cette rencontre, on n'aurait pas entendu ce texte.
Voilà un exemple, Dany Laferrière, de rencontre entre Jean-Marie Gustave Le Clésio et puis une Inuite.
Oui, ce qui m'avait impressionné en arrivant à ce festival, c'est qu'il y avait l'idée magnifique, énorme, MapMonde, une idée MapMonde et du livre, mais c'était dans la réalité. C'est-à-dire, moi qui venais de publier un livre dont le titre était « Je suis fatigué », où je disais que j'étais fatigué de l'injure géographique, le fait qu'on rappelait toujours mes origines avant de lire mon livre, le fait qu'on rappelait toujours ma couleur pour me mettre à côté d'un écrivain de même ressemblance. Enfin, tout ce monde-là, on évitait le monde dans les festivals, mais après, on les mettait par lot, par rangée. On était dans des tribus de blanc, tribus de noir, tribus de jaune, tribus, et brusquement, j'arrivais dans un festival où je me retrouvais assis à côté d'un Russe, d'un Suédois, d'un Sénégalais, d'une poétesse Innu, et on conversait immédiatement parce que nos livres conversaient et nos livres s'abreuvaient à la Bibliothèque du Monde qui, elle, prenait sa source à l'enfance. Donc on se retrouvait comme ça, presque sans thème, par le désir fiévreux de connaître le monde et de le dessiner et de l'offrir aux gens.
Ouais. Alors, ce festival Étonnant Voyageur a essaimé à travers le monde. Il a lui-même voyagé. Il y avait l'édition chaque année à Saint-Malo, mais il y a eu à Missoula, aux États-Unis, à Dublin, à Sarajevo, à Bamako, à Brazzaville, à Rabat. Et il y a eu un festival Étonnant Voyageur à Haïti. Dany Laferrière, vous étiez de la partie. Évidemment, quel souvenir vous gardez de ce festival Étonnant Voyageur à Haïti?
Eh bien, deux souvenirs. Et le souvenir de vouloir apporter le monde en Haïti. On était loin dans la mer des Caraïbes Mais c'est une nation de gens fous de livres. Hein. Et Carpentier, Léo Carpentier a raison de parler de siècle des Lumières. On est complètement et accoudé à la fenêtre de ce siècle magique français. Et on aimait lire et brusquement, Michel Lebris venait apporter le monde aux jeunes gens d'Haïti. Et l'autre souvenir, naturellement, c'est que juste avant le festival, il y a eu le tremblement de terre de Port-au-Prince, et Michel Lebris et moi, Maëtte Chantrelle, Ménalie Lebris, et d'autres personnes du festival, courageusement, se sont retrouvés à Port-au-Prince, au milieu de cette catastrophe. Et je me souviens, le lendemain de ce tremblement de terre, une journaliste québécoise et m'avait demandé ce que je pensais de tout ce spectacle de désolation. Et j'avais répondu que on ne peut pas effacer la culture. Quand tout tombe, il restera la culture. Et c'est tout à fait dans le sens de Michel Lebris. Mmh. C'est pas la culture uniquement livresque. C'est la culture, c'est-à-dire l'être nu, vivant, debout, racontera des récits et s'enfoncera dans la forêt pour d'autres découvertes.
Je vous propose d'écouter Michel Lebris, de retour de ce voyage à Haïti en 2010 au micro de Laurent Goumard sur France Culture.
Ce festival, c'était pour nous, on le disait, l'année d'Haïti. 11 prix littéraires internationaux, ouais, pour les écrivains haïtiens cette année, venant des États-Unis, du Canada, de Berlin, de France, de la Caraïbe. C'est une sorte de reconnaissance internationale de cette puissance de création en littérature, mais qu'on retrouve en musique, qu'on retrouve en peinture, qui avait fait l'admiration de Malraux et de Breton. C'est cette culture, le ciment identitaire de cette île. Des gens approchaient Dany Laferrière dans la rue alors que le tremblement de terre avait eu lieu pour le remercier d'avoir écrit son livre, lui protestant, disant non mais vu les circonstances, je lui dis mais non, au contraire, on est fiers de toi, tu as fait honneur à cette île. C'était aussi une idée d'eux-mêmes qu'ils voulaient dire à travers l'admiration pour ce livre, c'est qu'ils étaient capables de ça et que c'est cette force-là qui c'est la seule force qu'ils ont qui pourra reconstruire cette île. Et quand j'entends parler de fatalité haïtienne, j'ai envie de hurler littéralement.
C'est ça, il y a vraiment le terme fatalité qui revient dans les médias, malédiction que j'ai entendu ce matin.
Je vais les étrangler, les journalistes à force, quoi. Et s'ils faisaient un peu leur métier, s'ils racontaient un peu l'histoire d'Haïti, s'ils disaient que c'est nous, les Français, qui avons mis ce pays à genoux, les Espagnols d'abord, 3 millions d'Indiens tués en 10 ans, la nuée brouillard de l'esclavage, la première République noire indépendante en 91, se libérant de ses chaînes elle-même, que Napoléon a essayé de réoccuper. La première défaite des armées napoléoniennes, ce sont ces esclaves qui l'ont infligée. Et Charles X, pour accepter l'indépendance de cette île, les a obligés à payer 150 millions de francs or. Ça représente plus de 10 milliards de dollars actuels. On a tué ce pays, littéralement, pour lui faire payer d'avoir osé se libérer.
Michel Lebris en 2010 sur France Culture, Dany Laferrière. Michel Lebris était d'accord un amoureux des livres, de la culture, mais on l'entend là aussi, un homme engagé, fin connaisseur de l'histoire et de la géopolitique.
Ah oui, totalement, vous avez entendu sa fièvre, on ne le retient pas sur certaines questions, et dont Haïti. Ça m'avait toujours impressionné chez lui, cette application. C'est un élève bien appliqué quand il veut apprendre l'autre, le comprendre par son histoire, par sa culture. Il n'y va pas, comme je l'ai dit au début, en touriste. Il s'applique, il ne fait pas de mauvaises citations. Il dit les choses et très bien, avec fièvre. Et là, on l'a vu, il a une montée de voix, mais il n'est pas toujours comme ça. Des fois, il peut aller avec une monotonie qui décourage. Mais quand il est pris par le ventre, il sort. Et là, on se retrouve avec un orateur de premier plan. Ah, on est comme étonné, Michel Lebris, qui fait cette véhémence et qui est une éloquence parfaite chez lui.
Yvan Lemaine, vous, il faut dire que c'est avant tout, et c'est en tout cas d'abord, le militant Michel Lebris que vous avez connu, puisque adolescent, 16-17 ans, vous avez hurlé, libéré Michel Lebris. On était à la fin des années 60, hein, en 69. Il avait été, rappelez-nous pourquoi il avait été incarcéré pendant 8 mois.
D'abord, il s'était libéré Lebris et Le Dantec, deux Bretons, du coin.
Jean-Pierre Le Dantec, qui était lui aussi le directeur
de la cause du peuple. Jean-Pierre se fait arrêter, donc Michel le remplace, Michel se fait arrêter, et c'est Jean-Paul Sartre qui le remplace, et là on se dit stop, ouais. De Gaulle avait dit on n'arrête pas Voltaire.
Ouais. Ce journal, et c'était donc, le journal de la gauche prolétarienne.
Prolétarienne, oui, oui.
Et ça. Il avait été interdit, ce qui avait valu à Michel Lebris d'être emprisonné. Mais ce soutien de Jean-Paul Sartre...
Neuf mois, ouais. Voilà, et 9 mois de prison. Et puis la France entière, enfin une partie de la France entière, si je veux dire, s'est soulevée, dont moi, à Tréguier. Mmh. J'étais en première, je crois. Et j'ai dit libérer Lebris et le Dantec dans les rues de Tréguier. Mmh. Et j'avais 16 ans, quoi. Et je l'ai rencontré quand j'avais 22 ans après.
Quoi. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre, cette première rencontre avec Michel Lebris, qui est ensuite devenu votre ami, presque votre frère.
Oui. Eh bien, j'ai rencontré Michel grâce à Jean-Pierre Le Dantec. D'ailleurs, il nous a invités à manger, parce que manger, c'était important pour lui. Moi, le souvenir le plus simple et net et clair, comme une vitre bien lavée, c'est sa bonté. Ses yeux bleus et sa bonté. Et sa douceur. Tout à l'heure, j'étais impressionné. Hein, je ne me souvenais pas qu'il pouvait... arracher les foules comme ça.
Quand il dit je vais étrangler les journalistes, ça vous surprend?
Mais il a, non, parce que je l'ai vu se mettre en colère, bien sûr, mais, ouais. Mais il a raison en plus. Ouais. Mais moi, ce que je retiens quand même, c'est vraiment sa bonté. Sa bonté. Parce que même les gens qu'il n'aimait pas, par exemple, les écrivains, il était pas méchant, profondément pas, quoi. Il était bon. Il était doux. Il avait une façon de vous regarder. Enfin, moi, je cédais tout le temps parce que des fois, comme je travaillais à Étonnant Voyageur, il m'épuisait parce que moi, j'ai pas son envie de soulever le monde tous les matins. Donc, quand on faisait le projet Saint-Malo, on commençait à en parler le 31 décembre. Et je rentrais chez moi, j'avais juste envie de lire les obsèques de Ouest-France, quoi. Et lentement, en plus, parce que j'étais épuisé. Le monde, toujours le monde de partout, tout le temps. Voilà. Avec sa douceur implacable. Qui faisait qu'on le suivait, moi je le suivais tout le temps. Il donnait envie de travailler, Michel, d'y aller à fond, quoi. Ouais. C'est pour ça que depuis qu'il est plus là, je suis perdu, enfin un peu, quoi, parce que je me dis tout le temps qu'est-ce qu'il dirait de ce que je suis en train de faire en ce moment, par exemple, quoi. Voilà. Et on dialoguait sans arrêt tous les deux. Donc voilà, c'était sa bonté, je dirais, moi, franchement. Hein.
Suite et fin de notre bivouac sur les pas de Michel Lebris avec vous dans un instant.
A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We, us the pharaohs, live for how you feel. Down by over, up round here, goose dips and sailors, I'll be home in a year. A tree grows towards the sunlight as my heart grows. God and loves an email, thankfully. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the pharaohs, live for our own ideal. Stained glass and tarot cards can tell us how.
C'était We Us the Pharaohs, Maxwell Farrington et le Super Omar sur France Inter. Merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale. Sur France.
France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Il faut quand même réfléchir à ça. Pourquoi les écrivains disent mieux la différence des gens, les mondes intérieurs des personnes, leur dimension romanesque, le foisonnement des histoires dans lesquelles les gens s'inscrivent pour vivre. Personne ne vit sans tout ce bruissement de contes, de légendes, de lectures, etc. Si on était privé de ça, on deviendrait étranger à soi-même et au monde.
Le créateur du festival Étonnant Voyageur, Michel Lebris, décédé le 30 janvier dernier et auquel nous consacrons ce temps d'un bivouac. Il nous invitait à nous interroger sur les écrivains. Mais quel écrivain était-il ? Daniel Laferrière, comment qualifieriez-vous l'écrivain Michel Lebris ?
C'était un homme qui accordait une immense importance à la poésie. Il l'a confié à ces jeunes hommes qui hurlaient dans les rues, libérer les Dantec, libérer Michel Lebris. Mais en fait, dans ce monde où la poésie tend à disparaître, je pense qu'il la cachait à l'intérieur de ses gros romans. Il était très, très soigné, attentif et à la poésie. C'est pour cela, si on relit ou on lit ses œuvres, il faut rester attentif à cette petite lumière et tremblotante au cœur de ces gros mammouths qu'il publiait. Ouais. Et que même si c'est gros, ces livres, et ils étaient jamais, et disons, pas ébouriffés. Oui, bien sûr, il était indiscipliné aussi, mais il était très attentif. Il faut voir ses petites mains potelées et son regard un peu larmoyant de vieux chien et cette douceur dont parlait Yvon Le Maine. Je pense qu'il cachait tout ça et à l'intérieur de ses livres. Il faut partir à la recherche de cette douceur. De cette douceur dont il faut prendre garde, parce que cette douceur peut se révéler en véhémence, et qui est la poésie. Je crois que c'est la poésie le fond de l'affaire pour lui.
Yvon Le Maine, vous le poète, vous êtes forcément d'accord ?
Là, ce que vient de dire Dany me touche beaucoup. C'est évident. Michel, quand à chaque fois que j'ai invité des poètes à Saint-Malo, il me disait « Combien de poètes inconnus cette année ?» qu'il me disait.
Ouais.
Donc il acceptait les poètes inconnus. Il me faisait une confiance totale là-dessus. Et Dany a complètement raison. À l'intérieur de ses gros romans, il y a le poème qui est toujours là. Et il en a écrit d'ailleurs. Il m'avait même dit qu'il me les montrerait. Puis finalement, il n'a pas fait. Voilà. Mais c'était ça le cœur. C'est exactement ça le secret de Michel. Le poème. Le poème en nous, comme il dit. Et je citerai deux phrases de lui qui sont pour moi des phrases de poète. Et nos vaisseaux étaient de pierre et nous étions très bons. Avec ça, on peut refaire le monde. Mmh. Et l'autre, que tout le monde connaît, nous sommes plus grands que nous, ce serait la conclusion, disons. Voilà. Et il naviguait. C'était effectivement, Dany a complètement raison. C'est le secret des livres énormes de Michel. C'est la fleur qui tient le coup au milieu du sel et de l'océan de la poésie mauve.
Yvon Le Maine, nous vous avons proposé pour terminer cette émission de nous lire un texte de Michel Lebris. Vous aviez carte blanche pour choisir celui qui vous semblait le plus approprié pour nous faire goûter à sa plume, pour entendre son écriture pour cette fin d'émission. Lequel avez-vous choisi ?
Ben, il va justement très bien avec ce que vient de dire Dany, tout de suite, sur le poème à l'intérieur de sa prose. Il me l'avait donné pour une anthologie en 95 que j'avais publiée, qui s'appelle « Il fait un temps de poème », et je l'ai mis à l'intérieur du portrait que j'ai fait de lui dans mon livre « La Bretagne sans permis ». Et on en avait parlé, hein, bien sûr, de la présence de son texte dans mon texte. Vous allez voir, c'est une histoire, une petite histoire. Ça conjugue à la fois le poème, l'histoire et le roman potentiel que cette petite histoire dégage. Le 20 janvier 1494, Pierre de Médicis, fils de Laurent le Magnifique, seul dans son palais de Florence, s'ennuie à mourir, tandis qu'au dehors tombe la neige à gros flocons. Mais voilà qu'il décide de faire appel à Michel-Ange, déjà célèbre, bien qu'âgé seulement de 20 ans, et qui vient de quitter la villa Médicis pour s'installer chez son père. Michel-Ange bougonne bien un peu qu'on le dérange en plein travail, mais protecteur oblige, n'en selle pas moins son cheval et court à la villa où il trouve Pierre rêvant devant les jardins blancs qui lui dit simplement « Faites-moi un bonhomme de neige ». Et voilà donc l'homme de l'éternité qui allait à Carrare choisir lui-même les marbres les plus aptes à traverser le temps, contraint de travailler la plus périssable des matières et qui invente, sous les regards blasés du prince, la plus belle peut-être de ses statues, la moins mortelle, statue rêveuse flottante dans les lumières de l'Italie, rendue au vent et au mirage de la Toscane inexistante, presque, et nous rêvons déjà comme si du temps pétrifié dans le marbre aux évanouissements de la neige, du plus durable au plus éphémère, brillait infiniment, infiniment fragile, les fils d'or de l'éternité. Ne disons-nous pas de certaines neiges qu'elles sont éternelles, conjonction de la lumière et du silence, et peut-être la seule image de l'éternité inscrite dans notre psychisme. La neige aussi renvoie à notre propre lumière et au silence qui, en nous, demeure. Les paroles que nous adresse la neige sont celles-là même de nos enchantements, à la fois les plus singulières et pourtant les plus universellement entendues. Écrivains, voyageurs, ethnologues, géographes ne nous parlent jamais que de leur neige. Ainsi, nous avons tous, je crois, quelque part, nos neiges intérieures. Quand tombe la neige, les instituteurs savent bien que les enfants deviennent intenables, émerveillés, presque fous, comme si elles murmuraient à chacun d'eux que la vraie vie, par-delà le tic-tac habituel des choses, est dans le fugitif royaume où s'incarnent les rêves, dans le monde immaculé qu'aucune ombre n'habite, vers cette étoile où, dans le silence indéfiniment, la lumière se renouvelle, ce monde blanc que seuls connaissent les poètes et les enfants. Plus tard, ils grandiront, bien sûr. Ils auront tout le temps d'apprendre combien vite fond la neige. Mais je plains ceux-là qui ne savent plus entendre, comme l'écho lointain d'un paradis perdu, l'appel au fond de l'âme des neiges éternelles.
Merci Yvon Lemaine. Nous allons mettre, si vous nous en donnez l'autorisation, le texte sur la page de l'émission et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Bien sûr, oui, bien sûr.
On l'entendait là, la poésie de Michel Lebris, d'Annie Laferrière.
Oui, oui, il aurait tellement aimé être ça, un bonhomme de neige pour les enfants.
Yvon Lemaine, en quelques mots et après, comment voyez-vous la suite d'Étonnants Voyageurs sans Michel Lebris?
Ben c'est difficile, hein, évidemment. Mais en même temps, les comètes ont toujours une queue, donc il y aura quelque chose qui va se poursuivre, c'est évident. Différent, hein, Michel n'est plus là, et je pense que les gens ne sont pas interchangeables, Michel et Michel. Mais en même temps, il a assez donné pour qu'on puisse continuer à faire, à travers Mélanie, à travers Maët, à travers toute l'équipe hein, avec qui travaille, pour faire que le festival et tous les écrivains qui sont là autour de avec nous, que le festival dure et le public, parce qu'il faut venir vraiment pour voir à quel point le public est magnifique et là avec nous, hein, voilà. Merci. Donc je pense que on va trouver le chemin pour continuer.
Merci Yvon Lemaine et merci Dany Laferrière d'avoir été avec nous tout le week-end et jusqu'à lundi. Le festival Étonnants Voyageurs propose des rencontres à suivre en ligne. Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.